J'avais entendu ce qu'il a dit. La fête est finie.
Ah, évite ton sac, gamin. Qu'est-ce que tu sais à propos de ce bouquin?
D'abord, je veux savoir comment tu l'as eu, à quel endroit et à quel moment.
Salut David.
Salut Alexandre.
Eh bien, je suis vraiment ravi de t'avoir sur ce nouvel épisode de TechSource, qui va être consacré aujourd'hui, on va dire, aux environnements immersifs, aux univers immersifs et toute la technologie et l'expertise qu'il y a derrière, mais pas que. David, aujourd'hui, tu es là avec nous parce que je te sais d'une grande culture, d'une grande éducation, d'une grande expertise sur ce sujet des univers immersifs qui brasse aujourd'hui beaucoup de technologies. C'est pas que la VR, il y a énormément d'autres champs. Et alors, pour que les auditeurs apprennent à un peu mieux te connaître, on va commencer par un petit vrai ou faux. Alors, David, est-ce que c'est vrai que tu fais de la VR depuis 25 ans?
Vrai. C'est vrai que j'ai commencé à la fin des années 90 et à faire plutôt des expériences pour le grand public d'ailleurs, pour des musées, des parcs à thème, des lieux artistiques, des installations. Et on faisait déjà de la VR avec des casques, des caves et des choses comme ça. Et puis finalement, ça ne m'a pas quitté.
25 ans.
Et voilà, 25 ans. C'est... au moins, ouais. Au fait. Ouais.
Ah, c'est une technologie qui n'est pas si récente, quoi. C'est un peu comme l'IA, tu vois. On se dit, oh là là, ça arrive, mais il y a des sous-jacents qui sont historiques quand même et un peu anciens, quoi.
Mais oui, en fait, on commence à... Enfin, le grand public et donc la presse s'en empare quand ça devient un potentiel sujet très grand public. Et ChatGPT, par exemple, c'est le cas. Oculus Quest, Oculus, le rachat, à l'arrivée sur le marché de casques de VR destinés au grand public, ça a évidemment complètement transformé et l'industrie et la façon dont on en parle.
Alors, vrai ou faux, tu es à l'origine du premier moteur de jeu vidéo capable de faire de la VR. Ça, c'est vrai, ça. T'es derrière le...
C'est vrai. Oui.
Énorme.
Ben, en fait, pour ceux qui connaissent Virtools, c'était un moteur de jeu qui était très, très présent dans les années 2000 et qui était à l'origine destiné au marché du jeu vidéo. Et via un partenariat avec la petite boîte où j'étais, où je faisais ces installations interactives ZA, Et Virtools, on a créé ce qu'on appelait le Virtools VR Pack, donc un module qui vient s'ajouter à Virtools et qui permet de faire de la réalité virtuelle. Et même dans des caves, donc dans des grands systèmes immersifs, avec les vidéocubes, c'est grands systèmes assez compliqués et chers, parce qu'à l'époque, c'était ça. Et on était assez présents, finalement, dans beaucoup de centres de recherche, d'innovation des grands groupes, etc., parce que ces technos du jeu vidéo étaient extrêmement malléables, efficaces pour prototyper des usages et faire rapidement des contenus interactifs, immersifs, pour résoudre des problématiques, entre autres chez des industriels.
Et dans la série, j'ai...
Et donc,
c'est ça. Et dans la série, j'étais à l'origine en premier de choses incroyables dans la VR ou dans cet univers. Tu as créé le premier cave français, donc tu en as parlé juste avant, tu peux nous rappeler ce que c'est un cave?
Ouais, un cave, donc c'est vraiment le dispositif qui a eu le plus de succès dans les industries, on va dire plutôt manufacturières, mais c'était plus ou moins les seuls à être en mesure de s'offrir ce type de système. Donc c'est une salle typiquement cubique qui fait 3 mètres par 3 par 3, et dont les murs sont des écrans rétro-projetés, en général, relief, et avec un système de suivi de la tête, de tracking, qui permet d'avoir la parallaxe correcte sur chacun des écrans, et du coup, de créer en fait une continuité entre les différents écrans, même s'ils sont anguleux entre eux, c'est un cube, on ne voit pas du tout les coins. Et en fait, on voit des hologrammes, on appellerait ça comme ça. En fait, on voit des modèles, des objets, des espaces, et on peut marcher à l'intérieur de ce cube. Alors, évidemment, c'est pas très, très grand, 3 mètres par 3. Alors, il y en a eu des plus grands, on en a un peu plus grand chez Dassault Systèmes maintenant. Voilà. Et donc ces grands systèmes, jusque-là, ils ont mis assez longtemps à arriver sur le marché, parce que justement très cher. Et donc le premier qui est arrivé en France, c'était autour des années 2000, c'était le SAS Cube, on l'appelait comme ça, c'était à Laval. Et Laval, pour ceux qui connaissent la VR, c'est bien la capitale européenne.
C'est ça, le temple.
Ouais. Le temple, pour des raisons politiques qu'on pourrait expliquer. Mais enfin, en tout cas, c'était vraiment le creuset. Et donc, on a fait un partenariat avec Clarté, le centre lavallois de recherche, qui est toujours très, très actif et très, très en pointe. Et Barco. Et on a inventé donc deux choses. Donc, on a fait en sorte que ce cave existe. En plus, il était mobile parce que nous, on voulait adresser nos besoins avec... nos besoins d'amener la VR dans des lieux, puisque des lieux pour faire de la VR, il y en avait très très peu à l'époque. Mmh. Et en plus, il était sur PC. En gros, jusque-là, il fallait un super calculateur Silicon Graphics qui valait 500 000 euros et qui avait, je pense, maintenant pas plus de puissance qu'un iPhone récent, mais qui faisait la taille d'un frigo, quoi, en gros.
Wow.
Et donc, on a remplacé ça par 4 PC synchronisés entre eux électroniquement et au niveau logiciel. Et on s'est occupé de cette partie logicielle de mon côté. Et voilà.
Et tu étais à l'origine de tout ça.
Donc, à la suite de ce partenariat entre Dada et Virtools, moi, j'ai rejoint Virtools en tant que chef de produit et de solutions pour l'industrie et les solutions immersives. Et Dassault Systèmes, quelques années plus tard, en 2005, a racheté Virtools. Voilà. Et donc, moi, je me suis retrouvé chez Dassault Systèmes.
Et tu es chez eux, chez Dassault Systèmes, tu as créé aussi le premier lab d'innovation.
Alors, oui, c'est vrai. En fait, quand je me suis retrouvé chez Dassault Systèmes, c'était pas tellement. Virtools n'avait pas particulièrement été racheté pour la VR. Et donc, du coup, moi. Et la VR n'était pas un gros sujet chez Dassault Systèmes parce que ça faisait 0,0001% de chiffre d'affaires. Il y avait quelques produits. Et donc, il a fallu que je démontre, en fait, l'intérêt, la valeur de ces technos-là pour que ça devienne un vrai sujet et qu'on soit prêt le jour où, il y a 8 ans, en gros, ces technos seraient disponibles sous forme de casque qui coûterait en gros une centaine de fois moins cher que les caves et qui du coup pourrait être une part faible de l'investissement de nos clients et donc en fait que ça devienne un marché pour Dassault Systèmes vendeur de logiciels parce que sinon jusque-là c'était quand même un marché pour les vendeurs de matériel puisque c'était très très cher et très, très niche, très spécifique. Et donc, c'est là que, du coup, je me suis muté en évangéliste, en fait, de la VR, d'où mon surnom sur les réseaux, Ivy Evangelist, on en parlera. Et que, du coup, j'ai commencé à créer, avec les premières technos qui commençaient à être un peu accessibles, des proof of concept, des concept expérience, en fait, de quoi démontrer des usages, les mettre à l'épreuve, de visiteurs, en fait, clients qui potentiellement pouvaient faire des feedbacks sur la valeur, sur l'utilisabilité de ce qu'on leur proposait, et faire de façon un peu itérative comme ça, en mode design thinking d'une certaine manière, des proof of concept qui après pouvaient donner lieu à des intégrations dans des produits, dans des offres, dans des solutions de Dassault Systèmes. Et donc ça, c'était un mode très open, itératif, open aussi avec les partenaires techno qui faisaient des casques, des écrans, des capteurs, des choses comme ça. Et donc ensemble, on inventait une solution qui permettrait d'être plus utile et apporter plus de valeur que chacun des morceaux séparément, quoi. Et ça, c'était un lab d'innovation qu'on a appelé le Immersive Virtuality Lab ou Ivy Lab.
Donc là, on comprend que sur le sujet, tu touches ta bille, j'ai envie de dire, et que depuis pas mal d'années. Alors, j'ai envie de jumper directement sur cette partie de l'émission On va parler de tes sources. Mais avant ça, tu ne vas pas y échapper. Mm-hmm. Je vais te poser des questions sur cette home de téléphone à qui je...
Ah oui.
Voilà. Donc, tu vas nous partager, si tu veux, donc, ce que tu as sur la home screen de ton iPhone ou autre.
Oui. Alors, bon, je ne vais pas vous parler des trucs utilitaires pour gérer l'emploi du temps de mes gamins. Il y a un outil que j'utilise beaucoup, c'est Obsidian.
Ah, Obsidian, t'es un fan d'Obsidian, d'accord. Hyper intéressant.
Ah, mais carrément. C'est un outil de prise de notes, mais surtout d'organisation de ces notes sous la forme d'un espèce de réseau de connaissances que moi j'aime bien qualifier de jumeaux virtuels de mon cerveau, d'une certaine manière. En fait, moi j'ai un espèce d'énorme fantasme qui est que je puisse convier quelqu'un à rentrer à l'intérieur de mon cerveau pour que je lui présente ce qu'il y a dedans. Et en fait, c'est assez rigolo parce que quand tu m'as convié à cet exercice-là de ce podcast, j'avais déjà commencé à faire une espèce de représentation de ce que j'ai pu faire au cours de ces 30 et quelques dernières années. Et j'en ai profité pour rajouter la partie lecture, podcast et autres. Je les aurai sous les yeux quand on se parle. Mais en fait, tout ça, c'est une espèce de représentation, quelque part, de mon univers intellectuel. Donc, c'est un peu un virtual me, un jumeau numérique de mon cerveau. Bon, il est 2D. Moi, je pense qu'un jour, on va voir tout ça converger avec le métavers. Enfin, on pourra inviter les gens dans un espèce d'appart. Je digresse par rapport aux sources, mais je pense qu'on est quand même bien dans le sujet.
Ouais.
En fait, quand on regarde avec le numérique, avant, quand on allait voir, on était invité chez des potes à dîner ou... On regardait la bibliothèque et la discothèque,
complètement.
La vidéothèque éventuellement de nos potes.
Complètement.
Et c'était un vrai sujet de conversation. En fait, tu l'as lu ce bouquin, j'adore cette BD. Ouais. Ah, trop bien l'intégrale de machin. Et maintenant, c'est quoi l'équivalent maintenant que tout est dématérialisé, quoi. On n'achète plus d'objets qui sont stockés dans une bibliothèque ou une discothèque. Et donc, c'est quoi l'équivalent de ça? Et je pense que ça avait une vraie utilité. Et donc... moi, j'imagine assez bien qu'on puisse trouver des façons de représenter de façon digitale, virtuelle, ces univers de connaissances qui nous caractérisent, en fait, et qu'on voudrait amener à partager avec d'autres gens, quoi.
C'est hyper intéressant.
Bref. Donc, Obsidian, vas-y.
Non, ben c'est dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es, quoi. Je crois que c'est Mauriac qui disait ça. C'est l'exercice qu'on fait quand on est invité chez des amis, comme tu dis, tu vas dans la bibli, tu scrutes, tu rebondis, c'est exactement ça, et c'est un peu l'exercice du podcast. Et Obsidian, alors pour les gens qui ne connaissent pas, effectivement, alors moi je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est un super outil qui permet d'aplanir un peu toute ta connaissance, enfin tout ce que tu consommes.
En fait, ça utilise énormément les tags, il y a un moteur de recherche aussi qui est bien foutu, et surtout, il y a une représentation visuelle, un espèce de graphe dynamique qui permet de relier des points de connaissance, donc des articles par exemple, avec des tags et de montrer en fait la proximité. Ça crée une espèce de système masse-ressort en fait, on a des espèces de bulles qui se déplacent et qui s'attirent en fonction du lien qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres. Et du coup, on crée une spatialité de la connaissance qui est un peu automatique. Alors, des fois, qui demande d'être un peu rangé aussi. Mais je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir visualiser, en fait, de la connaissance et de faire des analogies entre l'importance, par exemple, qu'on peut avoir sur l'intérêt qu'on peut avoir sur un sujet et puis finalement la masse d'articles ou de liens qu'on a pu recueillir autour de ce sujet.
Mais alors, du coup...
C'est un truc qui m'a... C'est un truc qui me lâche pas, en fait, depuis finalement le milieu des années 90, où avec Maurice Benayoun, en particulier dans cette petite boîte ZEDA, on faisait des installations et on était déjà sur ces logiques-là de représentation, de corpus, d'images ou de connaissances et des analogies visuelles qui permettent, en fait, de les appréhender et de donner du sens. et de découvrir en fait des choses qui sont totalement inattendues en fait. On en reparlera peut-être, mais moi je prédis que, enfin, l'IA, on se demande évidemment ce qu'elle est en mesure d'inventer. Je suis pas certain que l'IA puisse avoir la puissance du cerveau humain pour inventer des choses qui sont pas prévues en fait du tout.
Ouais. Et
cette représentation, voilà, la découvrir visuellement, c'est une façon de faire émerger de la connaissance imprévue et de la créativité.
Alors, Obsidian, on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est un outil qui est magique. Moi, alors, je dis ça, je ne le connais pas, je ne l'utilise pas, mais j'ai beaucoup d'amis autour qui m'en parlent. Moi, je n'arrive pas à savoir si c'est un outil ou un peu comme tu vois, d'autres outils, je pense à Notion par exemple. Qui sont
géniaux. C'est
cool ça, mais est-ce que tu passes pas plus de temps à apprendre comment fonctionner, à apprendre à maîtriser l'outil que de l'utiliser ? C'est un peu la question que j'ai pour toi là.
Obsidian, tu peux t'en servir au début sans utiliser toutes les fonctions avancées, puis tu les découvres au fur et à mesure.
Ok.
Et puis il y a un autre truc qui est quand même super cool. Bon, déjà, c'est gratuit.
Ouais.
Sauf si tu veux synchroniser en fait entre plusieurs appareils.
Ah oui,
il s'avère qu'en fait, il y a un moyen de le faire même sans payer. Je ne devrais pas dire ça, ils vont finir par le découvrir et puis ils vont me le couper. Mais ce n'est pas grave, je payerai.
Ouais, donc
non, mais voilà, à Obsidian, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais, c'est accessible, ce n'est pas si compliqué. Et puis, ça peut être un outil de productivité assez génial parce qu'on peut tout faire au clavier. En fait, ça utilise un langage de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. De description qui fait que si on veut faire un en tête 1, on tape
Markdown,
dièse, espace. Mm. Ça doit être ça. Bon, bref. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma home screen ? J'ai. Dis donc, j'ai pas grand-chose de très, très pro, hein, au final. J'ai TikTok. Alors,
ouais.
Pourquoi j'ai TikTok ? Parce que, évidemment, c'est cool et c'est marrant. C'est un peu récréatif. Mais moi, je fais beaucoup de veille avec.
Ah oui.
Enfin, en fait, si on réfléchit, c'est de la veille parce que, par exemple, tout ce qui est IA générative, large model language, en fait, je suis 2-3 comptes où je les... c'est même pas que je les suis. En fait, c'est que dans mon flow, de temps en temps, assez souvent, il y a des actus sur les dernières nouveautés de ChatGPT et autres. Et j'ai fait ma culture. On va dire le minimum de culture sur ce sujet grâce à TikTok, en fait.
Ah oui, non, mais suivre quelques comptes sur TikTok, c'est un moyen un peu rapide et c'est smart dans le sens où c'est souvent des morceaux de contenu de plus grands contenus, en fait, TikTok. Et généralement, c'est un peu les meilleurs morceaux quoi, qui sont dessus. Et sur le B2B, ouais. J'aurais pas misé grand-chose il y a quelques mois, quelques années. Effectivement, je suis pareil, hein, je suis comme toi, j'utilise... Et en plus, l'algo, en fait, plus t'en regardes, plus ça te repousse un peu les mêmes choses. Donc, il suffit que tu regardes 3 vidéos sur la VR, j'imagine, ou d'autres sujets, tu vas avoir
des... La VR, j'en ai zéro, quoi. Il me pousse rien sur la VR, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison. Et puis...
ouais.
Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de TikTok pour me faire une idée de ce qui peut se passer sur la VR, vraiment. What else LinkedIn, hein, vraiment. Alors, ce n'est pas sur ma homepage. Je l'ai mis exprès sur la deuxième. En fait, tout ce qui est réseaux sociaux,
ouais.
Je ne les mets pas sur la homepage. J'ai enlevé la plupart des notifs et des vignettes parce que j'ai bien compris comment on se fait attraper le cerveau par ces réseaux.
Ouais.
Et donc, j'ai pas envie d'avoir le comportement compulsif d'aller cliquer sur ceci et cela, ouais. Parce qu'il y a une pastille et je ne me suis même pas rendu compte que je viens de passer une demi-heure alors que j'étais en train de faire tout à fait autre chose. Mais bon, LinkedIn, l'algo de LinkedIn est quand même bien foutu et puis il est quand même basé sur la proximité avec des vraies personnes, des personnes qu'on connaît vraiment in real life. Et finalement, je pense que c'est là où moi, perso, j'apprends le plus et je suis, entre autres choses, surtout donc mon domaine, VR, AR, et puis les autres domaines dont on parlera peut-être tout à l'heure, liés aux neurosciences, aux sciences cognitives et tout ça, les gens que je connais et dont je fais confiance, auxquels je fais confiance, je sais que leur contenu, il correspond à des choses qui vont qui vont parler, que c'est pas du bruit, comme il y en a énormément sur les sujets VR, XR, métavers. Alors heureusement, il y a la vallée de la désillusion qui heureusement vient nettoyer un petit peu le bruit sur un domaine, mais le hype arrive sur un autre. Voilà. Mais moi, j'ai accès à des gens, à des communautés, à des groupes de gens qui faisaient de la VR avant le hype de l'Oculus et du Vive et des casques grand public. Donc, évidemment, et donc, ils sont souvent très liés à la science, à la recherche.
Ouais.
Parce qu'en fait, elle est partie de là, cette VR. Et moi, je suis toujours en contact, heureusement, même très, 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 de façon très proche avec la communauté scientifique qui s'occupe de ces sujets-là. Et c'est là le vrai cœur, le vrai fond de l'innovation, c'est quand on va la chercher directement dans les labos, quoi.
C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant ce que tu dis parce que bon, le podcast il est là aussi pour dire aux gens qui s'intéressent à certaines technologies par où on commence, qu'est-ce qu'on regarde et alors, ok, on va parler de sources, mais en général, si on est sur une technologie qu'on a envie de surveiller, qu'on a envie d'un peu de creuser, c'est vrai que le réflexe communauté scientifique est aller vers la science, quoi, hein, aller vers des description de brevets ou des white papers ou des thèses, quoi. Ouais. Ça peut être intéressant de,
ouais, ouais.
De
alors revenir. Après c'est beaucoup plus ardu, hein. Disons que évidemment un papier scientifique d'un domaine qu'on connaît pas bien, c'est à comprendre. Mmh. Ouais, c'est plutôt... Moi j'ai eu la chance d'être très très tôt fréquenté la communauté, en particulier de la conférence I3EVR, qui est vraiment, bah alors ça c'est une pure source, c'est la conférence sur la VR et l'AR, l'interaction machine spatiale, enfin tous ces sujets-là, qui est bon, souvent aux US, qui va être en Europe d'ailleurs, et même en France, en 2024 d'ailleurs. Et ouais, moi j'allais à ces confs-là en tant qu'éditeur de logiciels, parce que du coup on était sponsor, on avait un petit stand dans les pauses, et puis nos clients, les labos utilisaient nos outils. Donc, du coup, on avait une vraie proximité avec toute cette communauté scientifique. Ça m'est même arrivé de publier des trucs. Donc, ouais, être au contact d'une communauté scientifique assez tôt, ça aide. Après, si on est très passionné, on peut raccrocher les wagons et réussir à lire des papiers assez compliqués, quoi.
Ça, c'est un peu...
Mais c'est les gens. Voilà.
C'est les gens, oui. Les gens, LinkedIn, c'est un peu...
LinkedIn, c'est les gens, hein, ouais. Franchement. Je lis très peu de choses qui sont écrites par des gens que je ne connais pas. Hein. Mm-hmm. Ou je finis par les connaître. Ça, c'est peut-être ça aussi, le paradoxe, le truc marrant, quoi.
Alors ça, c'est
que LinkedIn rapproche les gens, quoi. Et donc, du coup, tu finis par connaître les gens et les intégrer à ton réseau quand bien même tu ne les connaissais pas. Parce qu'en fait, tu les tags, parce que tu leur écris, parce que tu les tags de façon précise sur un sujet précis. Parce qu'ils sont les champions de ce sujet précis. Et donc, ça, c'est valorisant pour eux. Et ils ont envie d'interagir avec toi. Voilà.
Alors, on va passer maintenant. Là, on a fait la home screen. On a vu, hein, elle est assez épurée et assez efficace, on va dire. Quelles sont tes sources de lecture aujourd'hui? Alors, c'est large. Hein. C'est tes newsletters éventuels que tu lis, des blogs, voire... Alors, quand je dis lecture, c'est aussi... audio, vidéo, il y a peut-être des podcasts que tu écoutes.
Alors, lecture, bon, à part effectivement LinkedIn ou des choses qui sont vraiment de la sérendipité, ça doit être ça, voilà. Je picore, ça vient comme ça. Après, il y a des choses, il y a une newsletter que je lis quasiment systématiquement, c'est l'usine digitale.
Ouais.
Franchement, c'est très propre. Les articles sont courts. Sur les sujets qui me concernent, la VR, c'est toujours... Il n'y a pas de bullshit. Enfin, il n'y a pas d'approximation. Julien Bergounou, je crois, maintenant, qui s'occupait de cette section-là, il est devenu le directeur, le rédac-chef de tout l'usine digitale. Il le mérite bien. Très smart. Et ce n'est pas toujours lui qui écrit les articles sur ces sujets, mais franchement, rien à dire. Et puis, ça relie avec tout le reste du digital... Donc, effectivement, il y a innovation, etc. Enfin, vraiment, pour moi, ça, c'est incontournable. et très efficace en termes de temps passé versus connaissance acquise.
Donc ça, c'est une newsletter.
Ça, c'est une newsletter. Sinon, moi, en fait, ma culture et mes sources, c'est surtout beaucoup l'audio.
Ouais.
Alors moi, je suis un enfant de France Inter. Hein. Je vis dans une famille qui, où je suis né, il devait y avoir France Inter le jour où je suis rentré de la maternité. Il devait y avoir France Inter à la radio. Mais en gros, ouais, on a beaucoup une culture comme ça dans ma famille et je continue d'écouter beaucoup d'émissions sur France Inter, donc de toutes sortes. Hein. Et en particulier, alors, il y a un podcast que j'adore, mm-hmm. C'est le Code à changer. Alors, j'ai oublié son nom, il ne m'en voudra pas, j'espère. Le Code à changer, c'est de la haute couture du podcast parce que c'est fait par France Inter et c'est produit par Radio France. Enfin, et donc, du coup, c'est les moyens de la radio qui sont quand même, de la radio publique exceptionnelle avec des gens qui vont, enfin, le mixage sonore, le choix de l'environnement. Et puis, j'adore comment ils racontent. En fait, ces interviews, c'est pas des interviews. En fait, il raconte comment il a discuté avec la personne qu'il a interviewé.
Ouais.
Et il se met en scène. Et là, je me dis, mais alors, nanana. Et du coup, je lui demande, nanana. Et on entend la réponse de l'autre. En fait, on n'entend jamais la question que lui pose à la personne qui l'interviewe. Ouais, c'est très, très joliment storytellé. Et malheureusement, il n'y en a pas assez. Mais vraiment, j'adore. Alors, toujours sur France Inter... beaucoup plus court et très très facile à consommer, Net Plus Ultra, Julien Baldacchino, toute petite chronique de 3-4 minutes sur le digital, beaucoup sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et ça permet de suivre et c'est très agréable à écouter.
Et ça parle de quoi ? Ça traite quel sujet ça ? C'est
du net, digital, en général. Voilà, on était plutôt sur ces sujets un peu généralistes, on va dire.
Mmh.
Après. J'ai beaucoup écouté Vlan de Grégory Puy.
Ouais.
Franchement, j'adore ce mec et j'adore son humanisme. Enfin, je pense qu'on se ressemble beaucoup. Il se préoccupe beaucoup, effectivement, mais il se préoccupe beaucoup de l'avenir de notre planète et du rôle que les humains sur cette planète jouent dans cet avenir-là, le rapport à la technologie et ou pas. Et donc, il y a toute une dimension qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. J'ai beaucoup écouté Vlan. Je l'écoute un petit peu moins maintenant. Parce que je suis aussi passé à des livres audio. En fait, j'écoute à vélo. Moi, j'ai la chance d'aller bosser à vélo.
D'accord, t'écoutes à vélo, ouais.
Et j'ai un casque qui me permet d'entendre quand même ce qui se passe dans la forêt et sur la route, parce que je traverse la forêt de Meudon pour aller de...
Ah, chouette.
De Clamart à Vélizy, et ça c'est un bonheur absolument colossal. Et du coup, je profite des odeurs, du visuel, de la température. Enfin, il y a un côté très méditatif, hein, on y reviendra peut-être,
d'écouter un podcast
du vélo dans la forêt comme ça.
Avec, oui. Ah oui.
Mais voilà, mais je peux quand même écouter le podcast en même temps, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes zones du cerveau qui travaillent. Et ça ne m'empêche pas d'être en pleine présence, d'être en pleine conscience. Je peux écouter ce qui se raconte tout en étant au contact de ce que je ressens et ça me fait beaucoup de bien. Et en même temps, ça me cultive. Donc pour le moment, je fais ça beaucoup. Et donc les podcasts, je les écoute surtout dans ce cadre-là. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que j'écoute d'autre comme podcast ou que j'ai beaucoup écouté ? Il y a une référence incontournable en VR. C'est Voices of the Ken By. J'adore le gars aussi, un Américain qui va dans tous les événements techno ou créa ou annonces, etc. autour de la VR et qui interviewe au moment de l'événement les personnes qui sont là et qui ont des choses à dire sur ce qui s'y passe. J'ai eu la chance d'être interviewé deux fois, je crois. Et c'est très bien fait. Alors, il faut s'accrocher. C'est vraiment... faut avoir un bon niveau d'anglais parce que ça va vite. Et là, par exemple, sur le vélo, c'est pas forcément aussi facile que ça. J'ai un bon anglais. J'ai vécu en Angleterre un peu. Ça va. Mais là, franchement, il faut rester très, très concentré. C'est très dense.
D'accord.
C'est très dense parce que c'est très riche.
Ouais.
Et il y en a plus de 1000 épisodes. Hein, donc, c'est vraiment... c'est une bible. Et puis, c'est un designer, le gars. Et donc, il il replace toujours le sujet du côté du user, des human factors, de tout ce qui n'est pas technologique en tant que tel. Il s'intéresse à la techno, mais il fait aussi beaucoup le pont avec des personnes, des artistes et des chercheurs sur des sujets de sciences humaines, de psycho, de neuro, etc. Donc évidemment, c'est très intéressant. On va dire que ça, c'est les principaux. Mmh. Alors, il y en a un que j'ai beaucoup écouté, mais malheureusement, il a cessé d'émettre. Ah. Mais il y a quand même une trentaine d'épisodes qui sont fantastiques. Ça me permet d'arriver aussi à un sujet qui est un sujet, pour moi, qui est devenu un sujet très important, c'est l'intrapreneuriat.
Oui.
Donc, le podcast en question s'appelle L'Ascenseur. Mm-hmm. J'ai été interviewé aussi dans ce podcast-là à une époque où, en fait, je ne savais pas que je faisais de l'intrapreneuriat. Alors oui, j'ai créé un lab d'innovation et on y faisait des trucs dedans qui finissaient potentiellement par être des solutions qu'on vendait ou qui transformaient les façons de travailler, donnaient des méthodes qui partageaient des méthodes d'innovation. Uh-huh. Et en fait, intrapreneuriat, c'est quoi en deux mots ? C'est avoir une posture d'entrepreneur à l'intérieur d'un grand groupe et de mener à bien des initiatives qui ne sont pas tombées du haut sous forme de tâches ou de livrables en tant que telles. Ce qui tombe du haut, et c'est fondamental, c'est le cadre dans lequel on peut donner lieu à ce partage d'idées, à la création de groupes de travail, à son pitch pour être financé, à son développement d'un POC ou de quelque chose pour démontrer, etc. Ça, c'est un cadre, il faut qu'il existe. Mais à l'intérieur de ce cadre, en fait, le grand levier, c'est la créativité du nombre. Et donc, par exemple, chez Dassault-Systèmes, on est 25 000. Et 25 000 personnes ont certainement autant d'idées. Une idée par jour, ça fait 25 000 idées par jour, potentiellement. Donc après, évidemment, il faut les organiser, les structurer et en faire quelque chose. Et le cadre est donc super important. Mais donc voilà, je me suis passionné d'intrapreneuriat parce que, pour reprendre un peu le fil du développement de mon activité, en fait, ce que je faisais en VR et dans mon lab de VR, c'était très, très... il n'y en avait pas beaucoup d'autres de gens qui fonctionnaient comme ça. Mmh. Et donc, du coup, ça n'a pas forcément trouvé un réceptacle pour que ça se pérennise. Et je me suis dit, bah oui, en fait, la transversalité dans un grand groupe qui n'a pas décidé que c'était un truc clé et central, parce qu'il ne fonctionne pas comme ça, et c'est ainsi, c'est compliqué à pratiquer s'il n'y a pas de cadre. Mmh. Et donc, du coup, moi, j'arrivais souvent à mobiliser, à sensibiliser des personnes à travailler avec moi sur un POC, mais on se retrouvait souvent à ce que le manager, contraigne, d'une certaine manière, la personne avec qui je bossais à faire uniquement ce que le manager avait demandé, quoi. Mmh. Et donc, je me suis dit, il faut un cadre à tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir et à comprendre, en fait, ce qu'est l'intrapreneuriat. Et comment, du coup, imaginer un cadre pour permettre de créer cet effet bottom-up, cette multiplicité des idées par le nombre et l'engagement, en fait, que ça peut créer et les capacités de transformation que ça peut créer.
Il y avait un podcast, alors, sur le sujet, ça, j'ignorais que le...
Oui, donc le podcast s'appelle L'Ascenseur Podcast, le podcast des salariés audacieux et ambitieux. Et alors, cette idée d'ascenseur, elle m'est restée. Ah oui. Parce que l'ascenseur, c'est prendre l'idée et la monter jusqu'au COMEX, si besoin est, pour qu'elle prenne une échelle significative. Et donc, ils ont interviewé 30 personnes en 30, en 30 jours.
Oui.
Enfin, ils se sont donné un petit défi. Elles se sont donné... J'ai adoré leur démarche. Et elles ont interviewé tous les... acteurs de cet écosystème, des labs d'innovation ouverte qui ont mis en place ce type d'activité, de la BNP à Naval Group, en passant par Orange, you name it, enfin vraiment, qui n'a pas de lab d'innovation, qui pratique ce type de choses. Et vraiment, vraiment, là j'ai tout appris. J'ai tout appris grâce à ça, sur ce sujet. En tout cas, ça m'a permis vraiment de me faire une idée très très structurée de ces leviers et du coup de pouvoir en faire quelque chose après.
Alors si on résume sur les podcasts, tu as parlé Le Code à changer, là on vient de parler de l'ascenseur podcast, tu as parlé en anglais, c'est ça que tu disais, alors j'ai plus le titre.
Ouais, ouais. Voices of VR, mais tout ça je te donnerai.
Voices of VR, ouais.
Les rêves, elles sont sur un Miro. Oui, j'ai pas parlé de Miro tout à l'heure, non mais... qu'est-ce que j'ai sur mon desktop? En fait, mais parce qu'en fait, Miro sur le smartphone, c'est plutôt un outil de visualisation que de création. En tout cas, je m'en sers pas pour créer sur Miro.
Ouais.
Sur mon smartphone. Mais en revanche, c'est dans mon menu start de mon PC. Et c'est quand même un super outil de représentation des idées, des liens entre les idées, de présentation aussi, et puis de co-design, de co-création. D'animation en fait de sessions d'innovation collaborative de co-design etc quoi.
Et voilà. ça c'est pour tes lectures de type magazine et de type podcast. Est-ce que t'as des bouquins? J'imagine que t'as une tonne de bouquins que t'as dû lire.
Ouais.
Est-ce que t'as 1% de cette somme de bouquins que tu voudrais nous partager?
Oui alors moi, mes lectures sont beaucoup autour des sciences humaines, de la socio, de la psycho, aussi du leadership, développement personnel, machin, choses comme ça, un peu
ouais.
Comme sur les podcasts. J'ai oublié de citer le podcast de Pauline Léniaud, qui a eu différents noms, mais aussi qui m'a beaucoup influencé.
Ah oui, le gratin.
Voilà, c'était le gratin, mais je crois que ça ne s'appelle plus comme ça. Je crois que ça s'appelle le podcast de Pauline Léniaud. Et Métamorphose aussi. Bon, allez, je ne peux pas tous les citer, mais on les mettra peut-être en ref. Les bouquins qui ont vraiment, qui m'ont marqué, qui ont structuré ma façon de penser. Je crois que le premier bouquin de psycho qui m'a vraiment touché, c'est Eric Berne. C'est « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» C'est l'inventeur de l'analyse transactionnelle. Et vraiment, si vous ne connaissez rien à la psycho et si ça vous intéresse de trouver un modèle qui permet d'expliquer les relations entre des personnes, en particulier dans le boulot, et les malentendus qui peuvent exister dans le boulot, dans le couple, dans la famille, etc. C'est vraiment un chouette bouquin qui, en
que
tout cas, moi,
après avoir dit,
m'a ouvert. Ouais. Côté boulot, il y a un bouquin qui m'a pas mal aussi inspiré, c'est La semaine de 4 heures. Comment il s'appelle, Timothy
Tim Ferriss.
Tim Ferriss.
Ouais, ouais.
Alors, c'est un grand fou qui a optimisé sa vie. Alors, bon, je pense qu'il y a une partie qui est un peu fictionnelle ou un peu exagérée, mais ça donne une petite idée de comment, en fait, repenser la façon dont on gère son temps. Et je retiens une maxime qui est finalement de ne rien entreprendre que l'on puisse maintenir dans le temps. Qui ne soit durable, hein, au ouais. sens propre du terme. Et donc lui, quand il veut développer quelque chose, il commence par se demander, mais comment est-ce que si je le mets en place, il va pouvoir durer ce truc? Et du coup, il fait tout un tas de réflexions sur finalement mon temps, combien je vaux à l'heure, et du coup, pourquoi est-ce que je me fais chier à faire de la paperasse ou du secrétariat alors que je pourrais payer quelqu'un à le faire à ma place? Et donc il emploie des gens... qui font tout un tas de trucs qui nous bouffent la vie et qui finalement sont tout à fait outsourçables. Bon, ça ouvre les yeux, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'aurais envie de vous partager qui est vraiment qui m'est vraiment influencé? Bon, en VR, il y a des incontournables. Hein. Si, comme on disait tout à l'heure, si vous voulez aller dans la science de la VR, vous lisez les 5 tomes du traité de la réalité virtuelle, donc orchestré par le célèbre Philippe Fuchs, et puis tout un tas de ses compères, Guillaume Moreau, et d'autres 5 traités qui se sont échelonnés sur plusieurs années. Moi, j'ai écrit un petit article dans un de ces traités-là à l'époque. Mais franchement, c'est la Bible.
D'accord.
Franchement, c'est pas la peine d'aller chercher beaucoup plus... Enfin, ok, c'est très très volumineux, mais une fois qu'on a lu ça, on a tout compris.
Ah, génial. Donc, le traité de la réalité virtuelle, si on veut commencer à creuser le sujet et d'avoir à peu près tout réuni au même endroit, quoi. Ok.
Voilà. Alors, c'est pas très récent, donc du coup, ça va pas forcément parler de ce qu'on fait aujourd'hui avec ces technos-là en termes d'application. Mais tous les principes fondamentaux d'immersion, de présence, parce que là où les gens... Enfin, ce que moi, j'aime à expliciter, c'est que pour moi, la VR, c'est pas du tout... Enfin, la science de la VR, oui, il y a de la techno, mais ce qui est le plus, le plus scientifiquement clé et intéressant, c'est pas la techno, c'est les sciences humaines qui sont derrière. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens? Pourquoi est-ce que on retient mieux une formation que l'on a fait quand on a engagé son corps dans les interactions? Pourquoi on arrive à créer des automatismes où on fait faire des choses à des personnes qui échappent complètement à leur conscience, ce qui peut permettre, entre autres choses, de guérir ces gens-là, par exemple, qui ont des phobies ou qui ont des stress post-traumatiques. Voilà. La VR a une puissance qui est particulièrement distinctive parce qu'elle est en mesure d'aller parler à des parties profondes de notre cerveau.
Oui, c'est ça. C'est directement, c'est un dialogue avec.
Et du coup, moi, ça m'a... Enfin, j'ai eu la chance de fréquenter beaucoup de scientifiques qui utilisaient Virtools et les outils de VR que j'avais mis dedans pour faire des expériences sur l'homme dans la boucle. Donc, créer des stimuli et voir comment la personne... réagit. Et donc, par exemple, Roland Jouvent et son équipe à la Salpêtrière, le Collège de France, Alain Berthoz, des gens de l'Institut des sciences du mouvement à Marseille, qui travaillent aussi sur les simulateurs, etc. Ces gens-là, comme ils utilisaient mes outils, j'ai appris et j'ai compris, en fait, beaucoup de choses sur ces sujets. Et du coup, je me suis mis à lire des choses sur les neurosciences et en particulier le bouquin de Roland Jouvent dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Le cerveau magicien. Alors là, si on veut démarrer en neurosciences, donc c'est un mélange entre de la physio et de la psycho, c'est-à-dire qu'il fait vraiment le lien très intelligemment entre les zones du cerveau qui sont physiologiquement situées à tel ou tel endroit et leur fonction dans la machine humaine, et grâce entre autres à l'IRM fonctionnel, donc à la façon dont maintenant, enfin, on est en mesure d'observer l'activité du cerveau quand on fait certaines activités, certaines tâches, certaines fonctions. Donc vraiment, vraiment, ça c'est un bijou, le cerveau magicien, et il utilise une image que j'emprunte, d'ailleurs on le voit sur la couverture, c'est une personne sur un cheval. Moi j'aime utiliser la métaphore qu'il utilise, il dit que notre cerveau c'est un cavalier sur un cheval. Le cheval, c'est notre partie animale, c'est le cerveau limbique, c'est le cerveau reptilien, c'est les zones profondes de notre cerveau qu'on partage avec tous les mammifères, par exemple. Et le cavalier, c'est notre néocortex, notre cortex préfrontal, qui s'est énormément développé et nous donne des capacités d'analyse, de langage, de réflexion, de conscience, donc, vraiment qui nous rend... qui fait de nous des sapiens. Et il explique que la magie, en fait, c'est la capacité à dialoguer entre ces deux parties de notre cerveau, à se raconter le monde tel qu'on a envie de l'avoir vécu. Enfin, en vrai, faut pas s'étonner que des fois, on se chamaille avec des personnes parce que chacun prétend qu'il s'est passé ci ou ça. Et en fait, il s'est passé des faits. Mais en fait, la trace qui reste dans notre cerveau, c'est celle qu'on a bien voulu stocker. Et il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça. Et donc, on peut être totalement convaincu d'avoir dit ou fait quelque chose, alors qu'on ne l'a pas dit ou pas fait. Et on est de bonne foi. Et on n'est pas forcément en train de manipuler l'autre. Ouais, vraiment, c'est très, très intéressant. Et du coup, moi, ça m'aide à définir ce qu'est la réalité virtuelle, au final. Et moi, je le dis tout simplement, c'est une boucle sensorimotrice qui permet d'aller du coup s'adresser au cheval de notre cerveau à la partie animale, à la partie réactive, à la partie instinctive, et qui est en charge, parce qu'elle est en charge des zones sensorimotrices, en fait, et des émotions, et de la mémorisation, et certainement d'une bonne partie de la créativité.
C'est hyper, enfin, en tout cas, hyper bien expliqué le côté... c'est quoi la partie du cerveau dont tu dis le cheval? C'est le reptilien, c'est ça?
Alors, c'est le reptilien et le limbique. Le reptilien, limbique. C'est vraiment les fonctions qu'on partagerait avec les reptiles, hein, et puis qui est aussi en charge de tout ce qui est automatique. Enfin, alors après, il y a le tronc cérébral encore plus. Mais en gros, c'est vraiment la machine qui ne réfléchit pas, quoi, du tout, qui ne ressent pas, qui est complètement mécanique, y compris toutes les fonctions de gestion du corps, hein, en fait. Mais il y a des neurones, mais qu'on ne contrôle pas, quoi. Bon, bref, la réunion entre le cerveau reptilien et limbique, c'est le cheval, et le cerveau et le cavalier, c'est le néocortex. Voilà, et donc quand tu as compris ça et que tu te dis, ce qui est mon cas, que finalement, l'AVR, c'est une histoire de neurosciences, ça permet de décrire en fait les valeurs et les usages de l'AVR avec ce modèle-là en tête. Et en gros, à quoi ça sert la VR? Ça sert à faire rentrer ou à faire sortir des trucs du cerveau, et en particulier de notre cavalier, en allant stimuler le cheval, en lui faisant rentrer des percepts, des sensations, et en créant des actions. Des interactions en fait avec le système digital.
Et les neurosciences, c'est un champ que tu surveilles aussi? Est-ce que tu es en veille un peu là-dessus?
Ah bah, forcément. Alors bah oui, du coup, je suis vachement en veille. Alors, je lis pas mal de bouquins qui... Je vais pas forcément me jeter sur le dernier bouquin de tel ou tel auteur ou autrice. Hein. Mais du coup, je lis les bouquins qui me parlent. Alors, et du coup, je lis deux familles de bouquins. Mmh. On va dire... Des bouquins vraiment de neuro, psycho, et entre autres, qui sont liés aux caractéristiques des personnes qui sont multipotentielles, atypiques, qui ont potentiellement des troubles du neurodéveloppement, comme des troubles du spectre autistique, des troubles du déficit de l'attention, des dyslexie-praxie, etc., de la bipolarité, enfin, you name it. Il y a tout un champ de troubles du neurodéveloppement qui transforment la façon dont les personnes qui les ont interagissent, réfléchissent, agissent, et qui leur donnent, et c'est surtout ça qui est assez intéressant, des compétences, des capacités qui sont hors normes, et hors normes au sens extrêmement intéressantes pour de l'innovation en particulier.
Et oui.
Parce qu'il y a cette capacité à associer des idées, à associer des ressentis, à être hyper vigilant et hyper à l'écoute tout le temps. En fait, toutes ces catégories de gens, il y a un super bouquin, donc je reviens à mes sources, qui s'appelle Les philo-cognitifs. C'est un bouquin de deux chercheurs qui ont cherché à essayer de regrouper sous une même ombrelle toutes les terminologies, alors haut potentiel, zèbre, Asperger, TDAH, machin, enfin, en gros, toutes les personnes qui ont le cerveau un peu différent, ils les appellent les philo-cognitifs. Le sous-titre, c'est « Ils n'aiment que penser et penser autrement ». Et en fait, il fait une description de ce qui les caractérise. Et alors, on va être beaucoup à se reconnaître hein, dans ce bouquin, parce qu'en fait, déjà, il y a beaucoup de personnes, en particulier des personnes un peu visibles ou un peu dans la sphère entrepreneuriale, dans la sphère des médias, des artistes, etc., en fait, qui ont des caractéristiques comme celle-ci. Mais en gros, c'est à peu près 5%, je pense, de la population qui a ce type de... Et oui, c'est énorme. Et si on va dans la Silicon Valley, par exemple, des gens dyslexiques, y en a énormément. Des personnes qui ont des troubles du spectre autistique, type Asperger, il y en a énormément dans la sphère informatique, geek, etc. et des personnes qui ont des troubles du déficit de l'attention. On va en trouver aussi beaucoup chez des grands dirigeants, chez des grands créatifs, des Steve Jobs, des Einstein, etc. Mmh. En fait, qui ne sont pas forcément particulièrement plus intelligents, ils sont intelligents différemment. Et entre autres parce qu'il y a une pensée en arborescence. Mmh. Bon, en tout cas, le bouquin en parle super bien, parle de deux types de philo-cognitifs, les complexes et les laminaires, mmh. et où on est toujours un peu des deux, rarement pile au milieu, suivant qu'on est très, très... les laminaires sont très structurés, tout est classé, tout est modélisé. Les complexes sont plus artistes, créatifs, mais, mmh. mais en fait, on peut être les deux suivant les moments. Et voilà, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, parce que dans ma recherche autour de comment transformer, enfin, créer des espaces et des capacités à innover dans les grandes entreprises, à l'origine pour mon propre besoin, mmh. j'ai fini par... avoir une conviction qui est partagée par pas mal de gens que je connais, qui est que pour innover, il ne faut pas être typique. Il ne faut pas être dans le moule, entre guillemets, oui. de là où on est. Nul n'est prophète en son pays. Mmh. Et nul n'apporte quelque chose de particulièrement créatif si c'est une copie conforme du mode de pensée du haut management. Mmh. Et donc, les multipotentiels atypiques, on peut aussi les appeler comme ça. Mmh. Et il y a un bouquin qui s'appelle exactement ça, Multipotentiel atypique.
Ok.
Le sous-titre, c'est Visionnaire intuitif créatif, les pépites de demain. Mmh. Et alors, c'est un plaidoyer pro-atypisme, et en particulier dans l'entreprise. Et il nous explique pourquoi des personnes de ce type-là sont indispensables dans les entreprises. Et combien aussi, malheureusement, elles peuvent souffrir de ne pas être encadrées comme il faut.
Ouais.
En tout cas, de pas... En fait, en gros, il n'y a rien de pire pour une personne neuroatypique, enfin, multipotentiel atypique. Il n'y a rien de pire que d'être micromanagé et d'être suivi à la trace à délivrer des tâches, en fait. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et c'est même souvent... la source de burn-out et de grands troubles professionnels, en fait, qui viennent du fait que on ne sait pas les prendre, ces gens-là. Ils sont compliqués à gérer, mais en fait, ce n'est pas si compliqué. Et ce bouquin l'explique assez bien.
Mais je vais le dire, ton bouquin, je ne sais pas si je fais partie de ces gens-là, mais en tout cas, moi, j'ai un mode de fonctionnement de si tu regardes par-dessus mon épaule, tu ne comprends rien à ce que je fais. Parce que, en fait, je ne sais pas si tu parles de ça, mais... si je prends mon cas personnel, j'aime bien réaliser une tâche en coloriant certaines cases noires de manière un peu pas aléatoire, parce que mon cerveau, il a un fonctionnement, mais en batch, tu vois. Et donc, s'il y a quelqu'un qui te regarde derrière et qui te micromanage, dire, mais il est fou ce type, en fait. Sauf qu'à la fin, ça fait un dessin. À la fin, ça fait un dessin. Et ma femme, par exemple, elle ne comprend pas comment je fonctionne par rapport à ça. Tu vois, c'est même mes proches.
Lis. Tu vas prendre des choses. Reviens vers moi après si tu veux, parce que je commence à avoir pas mal d'expérience. Bon, aussi parce que dans la famille, on est très concerné par ces sujets-là. Mm-hmm. Et puis aussi, on s'attire. Dans le boulot, moi, j'ai une dizaine de personnes dans mon environnement proche qui soit ont excellé grâce au fait qu'ils ont trouvé les mentors et les personnes qui leur ont permis d'être totalement authentiques. Et du coup, et puis d'exercer leur façon de travailler sans qu'on les... Enfin, dans le bon sens. Et puis, il y en a d'autres qui se retrouvent à être plutôt en souffrance, qui font des burn-out. Alors aussi, des fois, ça se cumule avec des burn-out familiaux. Parce que quand, par exemple, on a des troubles de l'attention, il peut être fréquent que ça se caractérise à la fois dans le cadre familial ou dans le cadre professionnel ou scolaire. Et tout ça cumulé peut des fois mener à avoir des vies un peu compliquées.
Okay.
Mais du coup, je suis en relation avec pas mal de gens et on s'auto, d'une certaine manière.
Ouais.
Et ça, c'est important, je pense. J'ai même créé un petit groupe LinkedIn qui s'appelle Multipotentiel Atypique. scientifique, où bah, voilà, on se regroupe, on se partage des trucs, et puis on verra bien ce que ça donne en vérité. Je continue sur mes sources.
Alors, sur tes lectures, là, on a vu pas mal de choses qui nourrissent, qui peuvent nourrir l'innovation. Ça, je trouve que c'est passionnant. C'est pas uniquement de parler de l'expertise, mais ce qui nourrit ton expertise sur la VR ou ton job dans l'inno. Il y a tellement de... Là, on a parlé de la neuroscience. Oui, j'ai vu, parce que tu m'as partagé tes sources un peu en amont, j'ai vu un bouquin que j'adore, qui est très accessible, qui est Sapiens. Tu peux peut-être nous en dire un mot ?
Ah bah carrément, oui. Oui, ouais, tout à fait. Et puis, ça me permettra d'aller vers le sujet de l'environnement, de l'écologie.
Ouais.
Parce que bah, Sapiens, alors moi, me taper 400 pages de pur texte, j'ai du mal parce que d'abord, il faut trouver le temps. Ouais. Et le temps, je l'ai éventuellement le soir. Et le soir, si je n'ai pas de stimulation un peu visuelle, je m'endors.
Ouais.
Sur mon bouquin. En revanche, du coup, je lis énormément de BD. Enfin, énormément. Je lis surtout des BD le soir. Et alors, quand par bonheur, il y a des bouquins de sociaux, de neuro, de psycho, de machin qui sont portés en BD, bah, c'est un grand bonheur. Et Sapiens en particulier, donc il y a deux tomes maintenant, qui parlent de la naissance de l'humanité et des piliers de la civilisation. Et alors, c'est extrêmement accessible, super. Évidemment, c'est très, très... En plus, c'est raconté avec les yeux... d'une petite fille qui suit Harari, en fait, je pense. Et bon, il nous raconte toute l'évolution de l'humanité et en quoi, en particulier, Sapiens a fini par dominer
les autres
Néandertals, les autres humanoïdes, parce que, et c'est là que tout est là, il était capable, grâce à son néocortex, à son cortex préfrontal, de raconter des histoires.
Ah oui, c'est ça, c'est la capacité
en fait,
de storytelling.
Développer un imaginaire, voilà, de développer un imaginaire et de partager cet imaginaire sous la forme d'écrit ou oral. Alors, écrit, c'est venu bien, bien, bien plus tard, parce que dans la préhistoire, pas dans l'histoire. Mais en gros, aller au-delà du clan, en gros, Néandertal se contentait d'être dans des clans et des groupes maximum d'une centaine de personnes où chacun connaissait tout le monde. Et le passage à l'échelle, entre guillemets, de ce qui a permis à Sapiens de se développer, c'est le fait d'être capable de regrouper des clans et des groupes entiers autour d'une histoire et d'une cause commune qu'on va retrouver après, par exemple, dans les religions. Les religions... c'est une façon de se regrouper autour d'une promesse commune. Mais surtout, et bien plus tard, et il en parle très très bien dans la BD, de créer de l'innovation. Et il prend l'exemple des frères... il parle de Peugeot, lui, en particulier.
Ah oui, avec le lion, je crois, ouais, c'est ça.
Et voilà, mais ça rejoint aussi... j'essaie de ne pas me mélanger entre toutes mes rêves. Voilà, tout à coup, je suis perdu. Non, voilà, si, ça rejoint Start With Why. C'est aussi, pour moi, une des très, très grandes références. Redis-moi le nom, parce que moi, je...
Simon Sinek.
Moi, c'est un de mes dieux, Simon Sinek. Il y a plein de petites vidéos, déjà, sur YouTube, qui montrent l'essentiel de pourquoi il ne faut pas commencer par le what, parce qu'en fait, on a décrété qu'on voulait créer des avions. Donc, Simon Sinek qui parle des frères Wright, mais c'est la même histoire. Et à l'époque de la conquête de l'aviation, il y avait deux groupes qui étaient là, agissant au même moment. Les frères Wright, qui avaient commencé par réunir des gens autour du rêve de l'idée de voler, et un groupe concurrent qui, lui, était ultra financé, qui pouvait se payer tous les ingénieurs qu'il voulait, etc., et qui partaient de l'idée qu'ils allaient commercialiser des moyens de transport, ou en tout cas, pas du tout à cultiver l'imaginaire de voler. Et ceux qui ont gagné, c'est les frères Wright. Et ça montre bien que voilà, partager l'imaginaire, ça a une puissance qui va bien au-delà de partager des moyens, quoi. Voilà, donc c'est dans cette logique-là. Et oui, je voulais parler d'écologie. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, parce que moi, je peux parler très, 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 très longtemps. Y a un bouquin qui, pour moi, est ma ref ultime et qui explique...
Celui-là ?
Alors, évidemment, la BD, voilà. Alors, il y a Le Monde sans fin.
Alors, il s'avère que je l'avais dans la bibliothèque.
Mais oui. Bon, c'est aussi un des moyens les plus évidents de comprendre les enjeux environnementaux. Donc, c'est Jankovici et Blin. C'est magnifiquement dessiné, magnifiquement illustré.
Le Monde sans fin.
Ça se rapproche beaucoup... Ça se rapproche beaucoup du style de facilitation graphique que j'apprécie beaucoup et qui permet, en représentant visuellement, d'expliciter des idées, des pensées. Et bon, bah, on comprend pourquoi c'est pas aussi simple que ça de choisir entre des énergies renouvelables, pas renouvelables, nucléaires, pas nucléaires. Enfin, il y a toute une logique autour de ça. Enfin, on apprend beaucoup de choses. Mais je voulais en arriver au bouquin que je viens de finir. Enfin, je l'ai écouté en audio guide. Et qui, pour moi... Alors, il n'est pas très récent, en vérité. Je crois qu'il y a même une édition plus récente que celle que moi, j'ai écoutée. Mm-hmm. Ça s'appelle Le Bug Humain. Et c'est Le Bug Humain. Alors, l'auteur, c'est Sébastien Boller. Et c'est une explication de comment... Donc, via les neurosciences, il nous parle de striatum, en fait, le cerveau profond, qui est le cheval, hein. Et il nous explique que notre cerveau est avide de renforceurs primaires parce qu'en fait, la dopamine est ce qui nous met en action, ce que d'ailleurs les réseaux sociaux cherchent à conquérir, hein, et ce qui manque d'ailleurs et ce qui crée des problèmes chez les personnes qui ont des troubles de l'attention. La dopamine, en fait, elle ne se sécrète que de façon systématique sur des renforceurs primaires, donc la recherche de nourriture, la recherche à se reproduire, s'élever dans la hiérarchie sociale et en faire le moins possible, la recherche du moindre effort. Et puis après, il rajoute la recherche d'information. Mais rien que les quatre premiers, donc en gros, manger, baiser, dominer le monde, enfin dominer dans la société, et tout ça en faisant le moindre effort. Notre cerveau, il est fait comme ça parce que c'est grâce à ces gènes qui ont ces caractéristiques-là que l'humain est devenu ce qu'il est. Et qu'en gros, il a dominé les autres formes de cerveau parce que cette équation-là, elle est gagnante en termes de reproduction génétique, en termes de darwinisme.
Ouais. Ah oui, d'accord.
Parce que c'est vital de se nourrir, parce que c'est vital de se reproduire et d'optimiser et de faire en sorte que ceux qui ont le plus haut niveau d'hiérarchie sociale se reproduisent. Enfin, disons que si c'est le cas, forcément, ça fait des descendances qui sont potentiellement plus à même elles-mêmes de se reproduire et d'être plus fortes que les autres. La légende raconte que, enfin, je crois que dans le bouquin, il dit que Gengis Khan... Enfin, en gros, on a 5% de nos gènes à nous tous, qui viennent de Gengis Khan, qui était peut-être l'archétype de ce champion de ses caractéristiques génétiques.
J'avais écouté la même chose sur Charlemagne, qu'on était tous les petits-enfants arrière-petits-fiaux de Charlemagne, parce que il avait eu beaucoup de conquêtes en tout genre avec l'Europe. Voilà. Enfin, chaque Européen.
Lui, il avait. Bon, en tout cas. Il part de ce constat-là que en fait, notre cerveau il est optimal pour ça. Et pour expliquer, donc ça s'appelle le bug humain, donc pour expliquer pourquoi, d'un point de vue environnemental, on est en train de foutre la planète en l'air, hein, en gros. Tout simplement parce qu'en fait, notre cerveau n'a pas évolué du tout intrinsèquement depuis qu'il était fait comme ça et qu'il était intéressant qu'il soit comme ça à l'époque où on était, à l'époque de la préhistoire. Alors maintenant, ça se traduit par quoi ? Les personnes qui sont particulièrement puissantes, qui ont des gros salaires, ils ont des grosses bagnoles, pour inviter le plus de nanas possible, c'est affreux ce que je raconte, hein, mais c'est le bouquin, il raconte ça. En gros, les signes extérieurs de richesse permettent de se reproduire davantage. Le moindre effort. Enfin, en gros, voilà, avoir une bagnole décapotable, c'est la conclusion en fait de comment ce cerveau en action se caractérise, quoi. et transposer à maintenant. Et ben avoir une grosse bagnole et un signe extérieur de richesse comme ça matériel, et ben c'est délétère pour la planète.
Et le marché, en fait, ce que tu dis, c'est que dans le marketing, ça active ses cases, quoi. C'est, ça cherche à activer ses cases.
Ah ben voilà. Les réseaux sociaux, ben, le nombre de likes, c'est monter dans la hiérarchie sociale.
Oui.
C'est séduire potentiellement pour se reproduire. Et ça explique aussi pourquoi les... Et en fait, la conscience, notre néocortex, qui lui serait en mesure et est en mesure de lutter contre ces renforceurs primaires, ben, en fait, il y a une lutte permanente entre ce qu'on est capable de contrôler et nos pulsions qui nous viennent, en fait,
de notre, exactement cerveau,
de notre cheval, quoi. Et donc, et alors, il en finit par un domaine, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est la pleine conscience. Et il explique qu'en fait, ben, avoir conscience que ces renforceurs primaires nous font agir d'une certaine manière, c'est le premier pas vers le fait de s'en débarrasser. Il passe aussi par la case qui explique qu'en fait, il y a tout un tas d'écrits qui nous ont permis de nous libérer, en fait, de ça, à commencer par la Bible et les 10 commandements. Parce que finalement, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. C'est justement pour éviter cette pulsion de dominance amoureuse et sexuelle. Tu ne tueras point pour éviter la dominance hiérarchique, etc. Et finalement, l'histoire humaine a montré combien que l'humain a besoin de connaissances, de conscience, d'intelligence pour lutter contre ces renforceurs primaires et devenir quelque chose, qu'on ne soit plus des bêtes, quoi, mais qu'on soit justement des êtres d'intelligence et de conscience. Et du coup, la méditation, il conclut en disant que la seule chose qui sauvera l'humanité et la planète, c'est la connaissance et la conscience, et qu'il est fondamental de développer ces capacités-là pour sortir de ce côté complètement primaire de nos activités.
Alors, en fait, le fait d'avoir conscience, c'est juste suffisant, finalement. C'est déjà un énorme pas. Plutôt que d'aller les combattre, ces instincts primaires, le fait de conscientiser, c'est déjà un bon exercice, quoi.
Voilà, mais conscientiser et du coup faire ce qu'il faut pour se mobiliser. Et en particulier, moi je m'intéresse beaucoup aux imaginaires et je crois qu'en fait, pour amener cette conscience ailleurs, il faut coloniser les imaginaires avec des visions positives de l'environnement et au contraire lutter contre le marketing, en fait, qui nous amène à toujours vouloir plus de consommation. Et Voilà.
Et ça fait pas mal de... Ça fait une vraie bibliothèque, là. C'est hyper, hyper riche. Là, on était sur tes lectures de type ouvrages, livres. On va terminer un peu l'épisode plus sur deux choses que j'aime bien creuser. La première, c'est la manière dont tu organises ta veille. Donc, comment tu passes du bruit au signal. Et puis, une dernière partie un peu plus chill, j'allais dire détente. Tu pourras peut-être nous partager 2-3 sources type loisirs. Sur ta partie veille, orga de la veille, souvent les invités me disent, moi, je j'ai pas forcément une structure hyper calibrée. Souvent la sérendipité arrive comme moteur principal. Est-ce que c'est ton cas ?
Oui, alors la sérendipité. Et ce que nous pousse en fait des agrégateurs en fait comme LinkedIn, moi j'utilise beaucoup.
Ça
fonctionne très bien. Moi en fait, ce que je pratique énormément, c'est que je fréquente certaines communautés.
Ouais.
En fait, c'est ça que je voudrais partager, c'est que il y a des écosystèmes qui sont propres à l'innovation. D'ailleurs, j'emprunte ce mot-là à la fabrique du futur. Et Eric, tu vas me rafraîchir la mémoire parce qu'on s'est connus grâce à ça, Alexandre.
Eric Seuillet.
Eric Seuillet, merci. Excuse-moi, Eric. C'est pas parce que ton nom ne me vient pas que. Mais c'est bien ta communauté qui m'a énormément inspiré. Et en fait, c'est un écosystème, un groupe de personnes qui, parce qu'il y a un leader, c'est important, se retrouvent, se reconnaissent et ont envie de créer de l'intelligence ensemble. Et donc, j'ai énormément appris autour de cette communauté. Donc là, et je continue de la suivre, plus ou moins de loin, la Fabrique du Futur. Il y a une autre communauté que j'ai découvert quand j'ai commencé à m'intéresser aux pratiques d'innovation collective et collaborative. C'est un collectif qui s'appelle Co-Design It. En fait, c'est un groupe d'indépendants, de consultants, entre guillemets, enfin de freelance, qui travaillent dans le co-design et l'innovation collaborative, qui organisent des sessions, des workshops, des sessions de créativité, enfin, whatever le nom, et qui m'inspire qui m'a révélé ce domaine dans lequel après je me suis spécialisé, j'ai fait des formations de facilitateur graphique, et puis une formation un peu plus longue en partenariat avec le CNAM l'année dernière pour aller un petit peu plus au fond des choses et justement mettre un peu de science dans tout ça, sur donc, l'innovation collaborative, on va dire. Et ce collectif produit énormément, mais tout ce qu'il produit en open source, en Creative Commons, en copyleft, et a surtout une éthique collectif qui est extrêmement, en fait, un manifeste pour travailler dans le cadre de Co-Design It. Moi, je suis partenaire, donc j'ai signé le manifeste. Il faut partager un certain nombre de valeurs et signer ce manifeste en disant oui, je veux créer des conversations autour des pratiques d'innovation collaborative et faire progresser ce sujet. Et c'est ça leur raison d'être. C'est pas se réunir pour être plus fort à vendre des prestations à des grands groupes, parce que c'est plus facile de se référencer, de référencer une seule structure, et puis si on est remplaçable, c'est aussi vachement pratique. Ça, c'est un side effect. Et là, j'ai appris un truc dingue, c'est que en fait, quand on donne, c'est le principe de l'open source. Enfin, moi, j'aime bien donner sans chercher à recevoir. Et puis, il s'avère que on reçoit après quand on est dans un écosystème positif et généreux et altruiste, et où la raison d'être de cet écosystème n'est pas nécessairement de gagner de la thune, mais plutôt de créer de la connaissance. Et donc, moi, je crois énormément à ça. Et donc, dans ces espaces-là, dans ces communautés de pratique, je crois qu'il y a un de tes invités qui parlait beaucoup de ça, on échange autour de ces sujets, alors peu importe le canal, en vrai, en WhatsApp, en LinkedIn, on s'en fiche, mais en tout cas, encore une fois, c'est la communauté de personnes qu'on connaît ou on connaît, qui connaissent. Il y a une confiance et il y a quelque chose qui est vraiment intermédiaire entre un petit groupe qui se retrouve en vrai et qui se connaissent tous, une communauté gigantesque sur LinkedIn, un groupe sur LinkedIn où finalement on finit par plus connaître personne. Et entre les deux, moi, je pense qu'il y a cette juste taille qui sont des écosystèmes où il y a un noyau dur qui se connaît relativement bien et qui vient agréger de plus en plus de personnes et créer ce climat de confiance qui est propre à l'innovation. Et donc, du coup, il y a deux groupes là-dedans qui fonctionnent aussi comme ça, après Co-Design It. Il y a la FXR, donc c'est l'association française de XR. Je suis un j'étais président jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je suis un des cofondateurs. Je suis vice-président maintenant parce que j'ai passé un peu la main, enfin voilà, c'est bien que ça tourne, que ça évolue. Dans cet écosystème à FXR, il y a beaucoup de scientifiques, il y a des gens qui utilisent la science dans leur pratique industrielle, quelle que soit l'industrie, culturelle ou manufacturière, et il y a une certaine estime et une certaine reconnaissance d'avoir fait partie et de faire partie d'un creuset. Et donc, on échange assez bien dans cet écosystème-là. En réel, alors ça s'était un peu interrompu à cause de la pandémie, on va refaire des journées donc, de la FXR, qui succèdent aux journées de la FRV. Mais en tout cas, on va créer des moments de rencontre à la frontière entre science et usage, entre recherche académique et finalement monde de l'entreprise, et continuer à réinventer ce domaine et à le faire progresser en groupe comme ça, collectif.
Donc un bon moyen de faire de la veille pour toi, c'est de s'entourer de ses pairs et d'intégrer des communautés de pratique, quoi.
Ouais. Et le dernier que je citerai, qui rejoint les sujets liés à la singularité et en particulier à la neuroatypicité, c'est un groupe, l'idée aussi par un mec très très charismatique, Rémi Usan. Le groupe s'appelle Authentique. Ça s'écrit O-T-H-E-N-T-I-K. Mm-hmm. Pour des gens un peu dysorthographiques, c'est un cauchemar parce que... à retenir, merci Rémi. Mais sinon, voilà, c'est une agence en fait, d'innovation par la singularité. En gros, qui regroupe des personnes qui sont multipotentielles, atypiques, neuroatypiques, neurodivergents, enfin, vous les appelez comme vous voulez, et dont la vocation est d'accompagner les grands groupes dans une dimension RH à sensibiliser les équipes, la direction de l'existence de profils différents et qui pourtant ont une très grande valeur si on les encadre et on les utilise là où ils sont bons. Et d'une part, donc, cette dimension RH, et l'autre part, c'est la dimension innovation, et c'est de proposer des services faits et fournis par des personnes qui ont ces profils différents, qui pensent en dehors de out of the box, du matin au soir, qui ont cette philoconicité, comme je disais tout à l'heure, et qui potentiellement peuvent apporter beaucoup de valeur. Donc c'est à la fois une boîte, entre guillemets, puis un collectif aussi, parce qu'en fait, il y a ce sentiment d'appartenance, ce climat de confiance, ce safe space qu'on peut créer très facilement et avoir des interactions. Donc voilà, ouais, conclusion, des groupes de confiance, de partage d'intérêts, de pratiques sur les thématiques qui sont cœur à ce qu'on exerce, pour moi, c'est certainement le meilleur moyen d'être en veille et d'augmenter ses connaissances, ses compétences, ses savoir-faire, ses savoir-être.
Alors, sur ta stack de sources perso, tu peux nous dire deux, trois sources que tu suis, tu regardes. C'est le moment détente du podcast. Donc, tu peux te lâcher sur tout ce qui est série, autres ouvrages, BD, enfin, whatever, quoi.
Sources perso.
Souvent, quand on est passionné au point de vue du boulot, c'est dur parce que souvent, le perso et le pro, il y a un overlap qui est fort. Moi, je sais que c'est, par exemple, difficile. Voilà.
Ouais, bah moi, mes sources perso, c'est ma famille, c'est mes enfants. Puis j'en ai un certain nombre, et puis certains qui sont relativement petits. Et d'ailleurs, c'est un super moyen de rester jeune. Hein. Faites des gamins, vous allez rester.
Ouais, attends.
Bah, je fais beaucoup de musique, moi. Je fais beaucoup de musique. Voilà, pour moi, la musique est un domaine extrêmement important. Mm-hmm. Je suis dans un groupe vocal, enfin, un chœur. Enfin, une chorale, enfin, je ne sais pas, on est 7 ou 8, et avec une super chef de chœur. J'ai été dans un autre groupe qui s'appelle les Musitériens, une asso d'ailleurs que j'ai co-créé, qui maintenant est devenue une grande école de musique, qui fait plein de choses, et on a fait 3 disques. Et j'étais pendant 15 ans dans cette chorale, mais malheureusement, c'était à Paris, puis j'ai déménagé à Clamart à cause de trop d'enfants, pas assez de place. Et j'ai dû un peu quitter ce groupe-là que j'ai vraiment adoré, les Musitériens, et le chœur, en l'occurrence, s'appelait les Fétouches. Mais oui, chanter dans un chœur. Alors déjà, quand on a la prétention, souvent, moi, je me souviens quand on disait sur ton CV, tu devrais mettre des sports collectifs et puis des trucs comme ça, tu sais, ça fait bien. Mais en fait, c'est vrai. Quand on chante dans une chorale et dans un chœur, bah en fait, s'il y a quelqu'un qui chante trop fort, qui chante trop au-dessus des autres, alors il y a des solistes, hein, il y a des moments de solo, ça c'est bien. Mais un chœur, c'est un chœur, et un chœur, c'est l'effet du groupe qui est là. Et c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est l'écoute. En fait, il faut réussir à chanter sa voix tout en écoutant les voix des autres, pour être en harmonie avec elle, quand bien même on ne chante pas la même chose. Et écouter ceux qui sont autour de nous qui chantent la même chose. Et bien ça, c'est un exercice qui est compliqué, hein, très très compliqué, mais qui est extrêmement kiffant et qui finalement développe, et ça je m'en étais pas rendu compte, mais beaucoup de... En fait, cette écoute-là, entre faire chanter comme ça ou être dans une équipe d'innovation et finalement créer cette synergie dans un groupe ou une communauté, bah en fait, c'est du même ressort, avec en plus ce côté extrêmement jouissif. Quand ça sonne en groupe, c'est tellement plus puissant que quand ça sonne tout seul, quoi. Enfin, c'est bien de s'écouter chanter, de... Bon, voilà, le narcissisme a besoin de ça, hein. Mais s'écouter, enfin, être dans cette espèce de communion, d'expression, d'écoute, de... et puis de diffusion d'une émotion de groupe, c'est pour moi c'est très très puissant et j'en ai besoin. Je le fais toutes les semaines et j'adore ça. Donc ouais, ça c'est bon.
Et ben,
ouais,
David, c'était bon. une super stack de sources que tu nous as partagé là. C'est un épisode à la Stéphanie, j'ai envie de dire. C'est plus d'une heure et quart, 1h20. Et c'est
aïe, 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 voilà, aïe, c'est 26. Mais tu vas tout diffuser, tu vas monter. On va voir.
Ah, à peine, hein. Il n'y a rien acheté hein, dans ce que tu nous donnes.
Il n'y a rien
donnes,
acheté, c'est très gentil.
Ouais, ouais.
Merci beaucoup, Alexandre.
Ça va être classé, trié, listé dans les show notes voilà, pour que les gens retrouvent tes sources. Ouais.
Et bah, c'est cool. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet exercice, à m'efforcer un petit peu aussi de faire le tri dans mon cerveau, dans ce jumeau virtuel que du coup j'ai commencé à mettre à plat de mes rêves pour inviter les gens dans mon espace mental. Et puis, et un jour je parlerai autour de l'écologie de ce projet, de cette envie que j'ai de partager. En tout cas, je cherche un TEDx. Allez, je lance l'annonce. Tu m'accordes 1 minute 30.
Ah oui, oui, oui.
En fait, j'ai réfléchi à une façon dont on pourrait imaginer transformer le comportement des consommateurs, donc de tout le monde, dans les pays développés en particulier, pour faire en sorte de réduire son impact environnemental et sociétal, enfin. Parce que, comme disait Coluche, il suffit d'arrêter d'acheter pour que ça ne se vende plus. Et si ça ne se vend plus, ça ne se fabrique plus. Et si ça ne se fabrique plus, ça arrête d'impacter. Mais le truc, c'est que tout le monde ne sait pas que bouffer de l'huile de palme, ce n'est pas bon pour les singes. Alors ça, on commence à le savoir. Bouffer du steak, ce n'est pas du tout bon pour plein de raisons. Et les seules personnes qui sont conscientes de tout ça, c'est le haut de la pyramide socioculturelle. Et le problème, c'est que tout un chacun qui est dans un supermarché, et même les gens en haut de la pyramide socioculturelle, ont besoin, au moment de l'achat, de changer leur comportement, encore une fois, parce que tout est fait pour stimuler notre striatum. Et donc, comment faire pour éviter ça? L'idée centrale, c'est de créer une monnaie de la planète, que j'ai appelée le plancton, et qui s'appuierait sur un double affichage. En fait, un affichage en euros et un affichage en plancton. Le plancton, on en disposerait de quantités limitées et tout est là en fait. Si on donne à tout le monde autant de plancton, donc pour se plus préoccuper du plancton, on en reçoit au prorata, enfin on en reçoit de telle sorte que la quantité de plancton émise ne dépasse pas ce que la planète est capable d'endurer et ça rejoint l'idée du jour du dépassement où on sait que puis en août on a consommé la totalité, je crois que c'est même juillet maintenant. De ce que la planète est capable d'absorber. Bah, imaginons qu'on ne donne de capacité d'achat que la quantité que la planète est capable d'absorber et qu'on ait un portefeuille de plancton et un portefeuille d'euros ou de dollars. Et l'idée, évidemment, c'est que ça fonctionne à une échelle planétaire, mais je réfléchis aussi au fait que ça puisse exister à une échelle bien plus réduite. Et ça a plein d'effets qui se coulent, entre autres aussi le fait que des personnes qui ne sont pas du tout frugales dans leur comportement, qui prennent des jets... Tous les 36 du mois pour aller se la couler douce à l'autre bout du monde, bah eux, ils n'auront jamais assez de plancton puisqu'on va en distribuer de façon équitable à tout le monde autant. Donc, ils vont devoir acheter du plancton à ceux qui, au contraire, eux, n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont une vie très frugale. Ils se déplacent en vélo, ils ne voyagent pas en avion, ils ne bouffent pas de bœuf, ils sont plus ou moins autosuffisants en eau, etc. Ben eux, les gens, ils sont pétés de thunes de plancton. Et donc, en gros, il va y avoir un marché de la revente de plancton pour recevoir des euros. Et on va se retrouver à avoir une société potentiellement beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste. Ça rejoint un peu aussi des idées de salaire universel. Donc voilà, il y a beaucoup d'utopie derrière ça, apparemment. Mais il y a aussi beaucoup de choses à faire du côté de l'expérience vécue à partir du moment où on se dit utilisons le mot plancton dans toutes les phrases plutôt que de dire empreinte, carbone, pollution, etc.
Oui.
En gros, ah ouais, regarde sur ce site, j'ai repéré, t'as vu les t-shirts, c'est 5 euros le t-shirt. Ah ouais, mais merde, c'est vachement de plancton. Hein, parce que c'est fait à l'autre bout de la terre.
Ah, je vois, c'est effectivement la monnaie, j'allais dire l'anti-monnaie, non, mais. c'est la contre-monnaie, en tout cas, qui permet
d'être contre-monnaie. En tout cas, peut-être qu'un jour, ça remettra la valeur et les imaginaires auprès de gens dont la préoccupation centrale n'est pas de s'en mettre plein les poches, et ça rejoint complètement tout ce qu'on s'est dit avant. Hein. Mais d'être des rôles modèles, voilà, pour moi, Emmanuel Faber, c'est ancien boss de Danone, en charge d'un grand projet de comptabilité extra-financière, c'est le même sujet. Ces gens-là, pour moi, ils ont beaucoup, j'ai beaucoup plus d'estime. Et ces gens-là, ils devraient être glorifiés bien au-delà de Elon Musk. Et pourquoi est-ce que la presse s'intéresse à Elon Musk et ne s'intéresse pas plus que ça à Emmanuel Faber, quoi. Voilà. Alors, long story, j'aimerais bien raconter tout ça dans un TEDx ou dans le moyen que peut-être tes auditeurs voudraient me donner pour en parler. J'ai jamais eu le temps d'écrire soit une fiction, soit... En fait, c'est certainement ça que je voudrais faire déjà. Peut-être une BD, peut-être un talk, et peut-être une start-up ou un projet d'entrepreneuriat chez Dassault Systèmes. J'en sais rien. Ça viendra peut-être.
Mais l'appel est lancé, en tout cas.
L'appel est lancé, ouais. Voilà.
Eh bien, j'ai passé un super moment, mais vraiment super. Merci, David. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de TechSource.
Eh bien, merci beaucoup, Alexandre.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour retrouver toutes les sources de cet épisode et découvrir d'autres invités, rendez-vous sur techsource.io. Cette émission est produite par le studio de podcast AirParty. AirParty, c'est aussi Planet Creators, le podcast de la Creator Economy, mais également Many to Many, l'émission des communautés augmentées. Pour retrouver toutes les émissions du studio, direction airparty.io. À très vite.